puis nous allons implorer le secours de notre Dieu. Dans ce jour, ô Dieu qui nous rappelle celui de la résurrection de ton Fils bien-aimé qui nous a aimés jusqu'à la mort et qui est descendu pour nous jusque dans l'abîme le plus profond pour vaincre l'homme fort, pour le lier et pour nous délivrer de celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. En ce jour de la résurrection, où Jésus, triomphant, est remonté du tombeau, où il a été exalté à ta droite, et où ta promesse a pu être accomplie de nous donner ton esprit, en ce jour, nous voulons te louer et te célébrer, et te demander que cet esprit que tu nous as donné nous remplisse jusqu'à toute ta plénitude afin que nous puissions comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Car nous allons nous pencher en ce moment sur des choses divines qui dépassent la compréhension humaine et nous avons besoin de ce secours divin. Car qui peut comprendre les choses de l'Esprit, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Que ta grâce nous soit donnée, donne cette grâce pour parler, donne cette grâce pour écouter, amène toutes nos pensées captives à l'obéissance du Christ, dépréoccupe-nous de tout autre sujet, dépréoccupe-nous de ce que sera cet après-midi, ou de quelques questions qui pourraient nous troubler, et que dans ta grâce, nous soyons tous à ton écoute, devant toi, car tu as quelque chose à nous enseigner pour notre bien suprême et notre bonheur éternel. Sois béni, sois loué, parce que tu auras triomphé de toutes nos résistances. En Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, en ce dimanche 13 décembre 1981, nous abordons la troisième vocation prophétique qu'annonçait le thème de cette retraite. Il s'agit donc d'Ézéchiel, dont le nom signifie « Dieu fortifie ». Et qui était le fils d'un sacrificateur nommé Buzi, comme vous l'avez vu au chapitre 1er et au verset 3, en faisant votre lecture ce matin. Donc, Ézéchiel, lui aussi, faisait partie d'une famille sacerdotale comme Jérémie. Et je vous ai dit que mes exposés auraient tous la force d'un témoignage. Esaïe, parce que c'est par lui que j'ai été amené au Seigneur il y a 50 ans de cela, au mois de juillet, en Suisse. Jérémie, parce qu'il est le prophète de ma vocation, cette vocation que j'ai reçue lorsque j'étais en Italie en décembre 1936. Et maintenant, Ézéchiel, parce que en 1933, à l'âge de 15 ans, Il a été pour moi le prophète de ma formation biblique à Lausanne, dans une chambre de clinique. Ça s'appelait autrefois l'hôtel Astoria. C'est assez près de la gare de Lausanne. Et le dernier étage de cet hôtel était une clinique. Et c'est là que Ézéchiel est devenu pour moi le prophète de ma formation spirituelle. Le bonheur que j'ai eu en lisant seul dans ma chambre le prophète Ézéchiel est semblable à ce qu'éprouve un homme qui part pour un grand voyage et qui explore une terre inconnue. Quel était mon guide? C'était le Saint-Esprit, réalité dans ma vie. Car, comme nous l'avons dit tout à l'heure, selon saint Paul, les choses spirituelles ne peuvent être comprises que par l'Esprit de Dieu. Et par la grâce de Dieu, quand on accepte le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui nous convainc de péché et qui ne reste plus extérieur à notre vie, mais qui fait son entrée en nous, qui nous régénère, qui nous baptise et qui nous abreuve, comme nous le voyons dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, faisant de nous, par ce baptême, les membres du corps de Christ. Nous ne sommes plus des individus isolés, mais nous devenons membres de ce corps de Christ, que nous devons toujours discerner et quand, par exemple, nous prenons la Sainte Cène ou l'Eucharistie, nous ne la prenons jamais pour nous seuls, individuellement, mais nous la prenons en distinguant le corps, c'est-à-dire en voyant toutes les personnes qui forment ce corps. Et si dans ce corps un membre souffre, tous les autres souffrent. Si dans ce corps un membre est glorifié, tous les autres se réjouissent. De sorte que le lien que nous avons les uns avec les autres n'est pas un lien simplement de sympathie, mais un lien de vie réelle. Comme aussi notre communion, quand nous l'apprenons à la table du Seigneur, est une communion réelle et pas symbolique avec la personne du Seigneur lui-même, et qui nous engage dans un engagement qui veut dire que comme Jésus est mort, nous aussi nous sommes morts, car nous annonçons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous annonçons la mort du Seigneur. Nous rappelons cet unique sacrifice. Nous ne renouvelons pas le sacrifice, il a été fait une fois pour toutes, mais nous rendons actuel ce sacrifice unique. Nous sommes replacés devant ce sacrifice, nous sommes comme à nouveau bouleversés par un fait auquel je ne puis jamais m'habituer. Le seul qui était juste a donné sa vie pour moi, et si moi je vis, c'est parce qu'un autre est mort pour moi. Et alors, dès cet instant, nous confessons aussi, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous confessons non seulement qu'on se souvient de cette mort, du prix de la grâce qui nous a rachetés, que ça a coûté cher notre salut, que ce n'est pas un petit salut, mais que nous acceptons aussi de souffrir comme Jésus a souffert, en ne se conformant pas au principe du monde en n'agissant pas comme ce monde, mais en se laissant guider par l'Esprit du Père qui nous amène à aller droit devant nous, sans nous détourner ni à droite ni à gauche. Nous sommes possédés, nous sommes saisis. Nous ne sommes pas de ceux qui possèdent le Saint-Esprit, des manipulateurs de puissance. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont saisis par l'Esprit. La main de Dieu est tombée sur nous et c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit là où il le trouve bon. Mais ce chemin est un chemin de souffrance. Nous ne pouvons pas éviter cette dimension. Si nous sommes disciples de l'homme de douleur, nous saurons ce que c'est que la douleur, nous saurons ce que c'est que la souffrance, et nous entrons dans la communion de ces souffrances. Ah, c'est cela, le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Et cette puissance dont on a besoin, c'est pourquoi? Pour justement entrer dans la communion de ses souffrances. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit, non pas pour faire des miracles, non pas pour vous donner des signes merveilleux. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre en chrétien, pour souffrir comme chrétien, parce que je ne suis pas les règles et les principes du monde. Nous connaissons la puissance de sa résurrection pour pouvoir entrer dans la communion de ses souffrances, afin en toute chose d'être rendu conforme à lui dans sa mort. Et cette conformité au Seigneur dans sa mort, ce n'est pas un langage littéraire, c'est cette crucifixion quotidienne. Nous sommes des crucifiés, nous ne sommes pas des décloués, des agités sur une croix. Nous sommes crucifiés avec lui. Nous acceptons cette mort qui crucifie nos sens et nous laissons maintenant le Seigneur vivre en nous. Pour qu'il puisse vivre réellement en nous, il faut que l'Esprit de Dieu nous maintienne lui-même dans cette mort. Quant à la chair, il n'y a plus de place pour la chair. La place de la chair, elle est à la croix. Comme je ne peux pas m'y mettre, c'est l'Esprit de Dieu qui m'y maintient et qui m'y maintient aussi par tout ce que je peux endurer et qui me crucifie. De sorte que j'ai souvent parlé des frères Clou et des sœurs Marteau ou des frères Clou et des sœurs Marteau ou vice-versa, peu importe. Mais, ou même de toute une église qui doit dresser la croix. Nous devons bénir le Seigneur pour tout ce qui nous plonge dans cette mort réelle, pour que la vie aussi de Jésus puisse se manifester dans notre chair mortelle. Comme le dit saint Paul, la mort de Jésus doit opérer en nous partout où la vie de la chair voudrait se manifester, et la vie de Jésus va se manifester alors pour vous, pour le bien suprême. C'est ce que le Seigneur nous enseigne quand son Esprit vient nous régénérer. Il continue, après la régénération, notre formation, notre instruction. De sorte que, quand j'étais dans cette fameuse clinique, dans cette chambre, je n'avais que ma Bible. Vous pensez bien que je n'avais pas de commentaires, puis je n'avais pas 36 traductions comme j'en ai maintenant, mais j'avais ma Bible Darby, et j'en bénis encore le Seigneur, car si même il y avait quelques anglicismes, eh bien, c'était la Bible, je le savais, qui m'apportait le texte le plus littéral, parce que c'est presque du mot à mot, et je savais que j'avais là la pensée la plus exacte, puisque dans toutes les écoles de théologie, on nous disait que les étudiants, qui voulaient apprendre l'hébreu, avaient toujours acheté une Bible d'Arbi, soit pour l'hébreu, soit pour le grec, et c'est encore reconnu aujourd'hui. Donc, je n'avais pas de commentaires, je n'avais que ma Bible, et puis, ce que je faisais, bien, j'écrivais chaque jour à mes parents une lettre, et je leur disais ce qui se passait dans mon cœur. Et dans mes nuits d'insomnie, pendant bien longtemps, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je faisais mes chaînes de référence, je n'avais pas de Bible Scofield. Et dans la Bible d'Arbi, il n'y a pas de concordance, il n'y a pas de parallèle. Alors, le meilleur moyen, c'était de faire moi-même mes références. Alors, je commençais à la Genèse, et puis j'arrivais à l'Apocalypse. Ça aide quand on ne dort pas. J'appelais ça le voyage de la gloire à la gloire, hein, parce que j'y voyais toujours la personne du Seigneur qui était avant la création du monde et qui s'incarne au temps convenable et qui retourne dans la gloire après avoir tout accompli. Et c'est ainsi que je remarquais qu'il y avait des sujets extraordinaires et que ce livre pouvait me donner un message pour les pauvres, un message pour les riches, un message pour les affligés, un message, par exemple, pour les veuves. Je ne savais pas qu'à 18 ans, on viendrait déjà me demander d'écrire quelque chose. Pour les veuves, ce message de Dieu aux veuves, j'avais 18 ans quand je l'ai écrit. Eh bien, parce que ça m'a été demandé au bord de mon lit par une jeune veuve qui m'a dit « Tu connais les Écritures, est-ce qu'il y a des promesses pour les veuves ?» Voilà un peu comment le Seigneur a trouvé bon de me former à l'école de sa parole. Alors, maintenant, vous avez lu ces trois chapitres ce matin qui nous apportent la vocation d'Ézéchiel. Et nous allons, comme je vous l'ai dit, nous arrêter sur le chapitre premier. Et cet après-midi, mon dernier exposé sera sur les chapitres 2 et 3, après quoi nous retournerons dans nos demeures pour y être peut-être silencieux autant qu'Ézéchiel et ne parler que quand Dieu le voudra. Hein, parce que c'est peut-être une des grandes leçons que nous aurons à apprendre. Et comme ça, vous ne serez pas de ceux qui démolissent les retraites Mahanaïm parce que n'en parlant pas ou ne parlant pas de celui qui vous apporte l'enseignement, eh bien, vous contribuerez au succès de ce travail que nous essayons de faire. Parce que plus vous parlerez de ces retraites d'une certaine manière, eh bien, plus vous attirerez contre ces retraites dans vos propres milieux toute espèce de sentiments qui ne sont certainement pas à la gloire de Dieu et qui ne servent pas le Seigneur. Si vous avez reçu du bien, donnez toute la gloire au Seigneur, ne parlez pas des hommes et n'opposez pas une retraite à votre communauté ou à ce que vous avez dans votre communauté. Soyez heureux si vous recevez une bénédiction dans ces retraites, que ce soit ici ou que ce soit à Châteauguay. Reconnaissez que nous sommes privilégiés, que nous ayons nos chères sœurs, qu'elles soient appelées sœurs grises ou les sœurs de Sainte-Croix, pour nous accueillir et que nous passons de très bons moments au pied du Seigneur dans ces maisons qui nous sont ouvertes et pour lesquelles encore nous bénissons le Seigneur. Parce que le Seigneur, il n'avait pas de maison à lui à un certain moment. Il en a pu avoir un temps à Capernaum, mais ensuite il n'avait plus un lieu où reposer sa tête. Et lui qui était né dans l'étable d'un autre, eh bien, quand il a voulu prendre son dernier repas, il a dû trouver la chambre d'un autre. C'était un lieu tout à fait providentiel. Et c'est là, dans un lieu tout à fait providentiel, qu'il a institué l'Eucharistie, la suprême action de grâce. Alors, ça peut bien être aussi dans vos maisons que le Seigneur fera tout son travail. Et si aujourd'hui nous n'avons pas d'Eucharistie, eh bien nous aurons un moment peut-être d'humiliation et nous entrerons peut-être aussi davantage dans la communion des souffrances du Christ pour son corps. Mais surtout que personne ne se dise « Oh, c'est à cause de ceci ou à cause de cela qu'on va supprimer la semaine. » On ne supprime rien du tout. On ne supprime rien du tout. Mais quand on pense peut-être que c'est plus sage pour que ça parle plus à tous nos cœurs et pas seulement à un ou deux auxquels vous pourriez peut-être, dans votre folie, penser, détournant toujours l'épée de votre propre cœur en vous disant « Mais est-ce que c'est pas à cause de moi? Est-ce que c'est peut-être moi qui ne suis pas prêt à cela? Et est-ce qu'on ne veut peut-être pas que moi j'encours aussi ce danger de manger et de boire un jugement contre moi-même, parce que c'est cela qu'on voudrait bien vous éviter, hein. Est-ce que réellement on a fondé tout ce que nous faisons dans cet acte? Ou bien est-ce que, bon, on le fait, oh, c'est beaucoup plus facile de le faire ici, hein. Dans nos communautés, on a des difficultés, puis il y a ceci, puis il y a ça, puis je ne l'apprends plus dans ma communauté. Mais alors ici, je peux l'apprendre, puis on va raconter ça partout. Et vous ne faites pas de bien. Vous ne faites pas de bien en agissant ainsi. C'est du Seigneur que vous devez parler. Et vous devez avoir un secret. Si vous avez une bénédiction quelconque, parce que vous trouvez le Seigneur dans telle ou telle rencontre, eh bien, gardez-en le secret pour vous. Et si vous pensez que d'autres personnes pourraient être édifiées, eh bien, vous pouvez leur en parler cela seul, pas en faisant une propagande pour un groupe. Mahanaïm, c'est rien du tout. C'est un lieu providentiel où l'on rencontre des anges. C'est un lieu où, tout à coup, voilà que nos regards sont comme les regards des anges. Les regards des anges, ils plongent dans quoi? Dans la personne du Seigneur. Et ce que les anges voudraient voir, c'est vos vies transformées. C'est le Seigneur dans vos vies, dans ma vie. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Les anges vous contemplent du haut du ciel. Timothée chapitre 3, vous êtes observés nuit et jour. Et il y a des prises de vue et de son. Et tout ce que vous pensez, tout cela est enregistré. Et un jour, tout cela sera manifesté devant tous. Alors, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais apprenons à nous juger nous-mêmes et à entrer dans cette communion des souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église, tout entière. Et ne serait-ce qu'à cause de nos divisions. Est-ce que cela ne vaudrait pas la peine de nous dire « Mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours des séparations ? Pourquoi, quand il y a de véritables enfants de Dieu, mais qui viennent par exemple de l'Église romaine, on leur a dit « Vous ne pouvez pas communier avec des gens qui ne sont pas de l'Église romaine » ou si le célébrant n'a pas été consacré par les mains d'un évêque. Bon. Alors, il y a des gens qui souffrent, qui viennent pour écouter la parole, mais qui souffrent de cela, puis qui ne comprennent pas, puis qui se demandent pourquoi.
Et alors on dit, oh ben,
on en a marre de toutes ces interdictions. On va sauter à pieds joints sur tout cela et on fera une communion sauvage. La communion sur les barricades, comme en 1968 à Paris. Alors, on se retrouve tous prêtres, pasteurs, qui que ce soit, et sur les barricades, on a une bouteille de vin, on communie, et puis on prend le pain, on partage le pain. Grande fraternité sur les barricades. Ah, ça c'est le réveil. Hein. Communion sauvage. Non, nous ne sommes pas pour les communions sauvages. Nous sommes pour une manifestation de l'unité du corps du Christ. Et nous souffrons de ces déchirures, nous souffrons de ces de tout cela. Et nous pensons avec certains de mes amis qui ont des grandes responsabilités dans d'autres communautés, eh bien, nous pensons que quelquefois, justement, nous faisons avancer davantage les vrais croyants vers cette marche, vers une unité hors cadre, en acceptant, en assumant la souffrance que provoquent les divisions et en disant, Seigneur, c'est pas possible, mais amène-nous à ce que nous puissions réellement communier ensemble, mais dans une communion, c'est vraiment le corps du Christ. Ça arrive parfois. C'est arrivé à tant de tours, à l'Institut des Hautes Études Écuméniques, hein, à Jérusalem. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu après? Mais c'est arrivé. C'était le jour de l'Ascension, en 1972. Chose extraordinaire. Mais ce n'est pas des choses qui se répètent comme cela. C'est de ces heures prophétiques où on a été dépassé parce que personne ne pensait que les choses se passeraient ainsi. Alors, nous voulons demander au Seigneur qu'il nous amène à crever davantage et à nous demander les uns les autres, mais est-ce que nous travaillons vraiment à cette unité des enfants de Dieu, ou bien est-ce que nous sommes des pique-niqueurs? Vous savez ce que c'est? Pique-nique tiré des sacs. Nous faisons nos petites affaires avec nous, les uns de ce côté, les autres de celui-là. Il faut que cela avance, car le Seigneur vient. Et il faut que vous soyez sensibiliser réellement à ce que peut nous apporter l'Eucharistie, la suprême action de grâce, et ce que nous n'avons que les baisers de Judas à donner à la fin d'une mission, à la fin d'une session à notre Seigneur, ou bien est-ce que nous avons le baiser de l'amour à lui apporter, le baiser de la femme repentante qui pleure et qui est au pied du Seigneur, qui lui baise les pieds, et qui est pour moi le baiser de la soumission. Il y a plusieurs baisers dans l'Écriture. Il y a le baiser de la réconciliation, le baiser du pardon du père de l'enfant prodigue. Il vous l'a donné le jour de votre conversion. Il y a le baiser maintenant de la soumission. Quand on est converti au Seigneur, on comprend que la voix de l'homme, comme le dit Jérémie, n'est pas à lui et qu'il n'est plus au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. C'est lui qui devient notre Seigneur et on accepte sa seigneurie dans notre vie. Alors, nous lui donnons, comme en Orient on le fait quand on se soumet au roi, le baiser de la soumission. Et puis vient le baiser de la communion, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont meilleurs que le vin. Ce baiser de la communion, cette expression la plus intime de notre communion réelle, de notre identification avec celui que l'on aime, le baiser des lèvres. Que le Seigneur nous donne d'arriver à comprendre que c'est ça l'Eucharistie, le baiser que l'on rend à celui et qui nous a tant aimés. Mais pas le baiser de la trahison, parce qu'on est bien décidé de continuer notre vie le passé, dès qu'on sera sorti, rien et rien ne changera dans notre existence. Les baisers de celui qui est sont fréquents, dit l'Écriture. Les blessures faites par un ami sont fidèles. Eh bien, croyez-le, si peut-être je vous ai déçu et si je vous déçois aujourd'hui, eh bien, c'est une blessure de fidélité. Et cette blessure de fidélité, croyez que je la porte au plus profond de moi-même et depuis des années. Ce n'est pas gratuit ce que je vous dis, car je sais ce que c'est qu'être privé de la Sainte Seine par mes frères. Et c'est pourquoi je ne voudrais jamais que quelqu'un ici soit privé de la Sainte Seine à cause de moi, mais qu'il me voie, moi, quand même, prendre la Seine sous son nez. Parce que je penserai que moi, je peux le faire, parce que moi, je suis digne, parce que moi, je ne suis pas comme les autres, parce que moi, je ne sais pas comme les autres. Je veux souffrir pour le corps de Christ. Et je voudrais qu'avec moi, vous acceptiez cette blessure pour discerner le corps du Christ tout entier, dans tous ses membres, et pour prier davantage pour ceux qui ont besoin de nos prières, parce qu'ils ont peut-être des luttes, des combats qu'on ignore, parce qu'ils ne peuvent pas encore tout partager, eh bien, que nous puissions entrer dans leur souffrance, et que nous puissions marcher au pas du troupeau, que nous ne soyons pas de ceux qui se croient déjà une élite spirituelle. J'ai en horreur l'élitisme. Et mon ami le père Michel, on me souligne chaque fois qu'il m'écrit depuis Lyon, l'élitisme. Être une élite, nous sommes l'élite, où on est des leaders, pour parler anglais, avec un méchant accent. C'est tout à fait marrant. Figurez-vous que ma chère sœur qui nous servait ce matin me dit, vous savez, monsieur Racine, il y a une chose qui m'étonne, hein. Alors vous avez un groupe vraiment formidable, mais il y a une chose qui m'étonne, moi j'ai toujours cru que vous leur parliez en anglais, que vos conférences vous les étiez en anglais. Puis voilà que j'ai écouté, puis vous leur parlez en français, quelle affaire. On leur parle en français. Parce que je pense que habituellement ces choses, ça se dit en anglais. C'est quand même aussi un témoignage qu'on peut rendre dans une maison canadienne-française, qu'on s'occupe de la Bible en français, vous ne trouvez pas? C'est aussi pour les Canadiens-français que nous mangeons la parole de Dieu, qu'on n'est pas toujours idée, c'est importé de la perfide Albion. Il n'y a pas d'anglais ici. Je les aime bien, mais je ne crois pas que ça sera la langue du ciel. Pas plus que le joual. Hein. Alors, revenons à notre Ézéchiel. Le temps où Ézéchiel eut sa vocation. Vous avez lu la 30e année, s'agit-il de l'âge du prophète? La 30e année, le 5e jour du 4e mois, vous voyez, les choses sont précises, on se souvient quand ça se passe, quelque chose. Hein, quand quelque chose s'est réellement passé, on s'en souvient.
Vous avez peut-être été étonné que je vous dise c'est telle année, c'est en tel lieu. Mais non, mais on s'en souvient. On a des dates dans notre vie. Moi, je ne sais pas si vous avez des dates dans votre vie. Je ne vous dis pas que vous devez vous souvenir de la date de votre conversion, parce qu'il y en a qui ne s'en souviennent pas. Parce qu'il y a des conversions aussi qui sont progressives et qui ne sont pas moins réelles, parce qu'elles sont manifestes par la vie des croyants, qui manifestent le fruit de l'esprit. Mais et quand même, il y a des moments dans la vie où il y a eu un tournant, hein, et on s'en souvient de ces moments-là. La 30e année, alors, s'agit-il de l'âge du prophète? Eh bien, nous ne le pensons pas nécessairement. Il s'agit, semble-t-il, de l'ère datant de Nabopolassar, qui était le père de Nebuchadnezzar et le fondateur de la monarchie de Babylone. Et vous savez, quand on fonde une nouvelle monarchie, eh bien, on commence une nouvelle ère. Alors, c'est les années, maintenant, du royaume de Babylone. Et la monarchie babylonienne a été fondée en 625 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas les années chez les Hébreux qui vont compter, mais c'est les années de ce royaume de Babylone, puisque c'est un exilé qui se trouve là, comme on aurait dit quand Mussolini ou Hitler ont voulu commencer leur ère nouvelle, ou même Napoléon. Eh bien, ils ont changé le calendrier, puis c'était un nouveau calendrier. Alors ici, la 30e année, c'est, semble-t-il, la 30e année après cette date de la fondation de l'Empire babylonien, et ça tombe donc sur l'an 595 avant Jésus-Christ, qui était précisément la 5e année de la captivité de Jéhoiakim, le 4e mois à peu près, le mois de juillet. À Jéhoiakim avec un M, dont la rébellion avait amené l'armée de Nebuchadnezzar sous les murs de Jérusalem, succéda ce Jéhoiakim avec un N qui régna seulement 3 mois. Il vous faut lire les rois pour savoir tout cela. Le nouveau roi était monté sur le trône au milieu des embarras et de la misère du siège de Jérusalem. Et ce fut sans doute à l'arrivée du monarque chaldéen en personne devant la capitale que Jéhoiakim, qui venait d'être nommé roi, couronné roi, décida de conclure une capitulation, parce qu'il a vu les troupes de Nebuchadnezzar autour de la ville, et il n'y avait que 3 mois qu'il était roi, et il tenait encore à la vie. Alors la ville fut épargnée, mais en se rendant, le roi ne sauva que sa vie. La ville a été épargnée. Ce n'est pas encore la destruction de Jérusalem, ça. Alors, Jéhoiakim fut fait prisonnier, il fut emmené à Babylone avec 10 000 habitants de Jérusalem, environ tous ceux qui, au cas de nouvelles complications, pouvaient se rendre redoutables par leur position, par leur intelligence et leur connaissance aussi des armes. Vous devriez lire, je vous les cite, 2 Rois, chapitre 24, verset 15 et suivant. Je ne veux peut-être pas vous donner ces lectures moi-même, mais je vous invite, parce que j'espère que ces retraites vous donnent du travail après votre retraite, pour les retraités, hein, que vous avez du travail, de la nourriture. 2 Rois 24, verset 15, il est dit, Nebuchadnezzar transporta Jéhoiakim à Babylone et il emmena captive de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi, ses eunuques et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7 000 et les charpentiers et les serruriers, au nombre de 1000, tous les hommes vaillants et propres à la guerre. Vous comprenez pourquoi ils les emmènent captifs? Parce que c'est eux qui pourraient faire de nouveau une révolution. On emmène les officiers. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Jéhoiakim, Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Vous voyez qu'on arrive à trouver le joint de tout cela. Mais il faut faire vos parallèles et rechercher, puis après vous avez l'histoire de Sédécias et comment Sédécias, ayant promis à Nebuchadnezzar de ne pas se révolter, il s'est pourtant révolté. Et si Nebuchadnezzar avait mis Sédécias sur le trône, c'est parce qu'il croyait en la parole d'un homme qui se disait le serviteur du seul Dieu, du Dieu unique. Et Sédécias, en transgressant le serment qu'il avait fait au roi de Babylone, et malgré toutes les exhortations qu'il a reçues de Jérémie, qui était là à côté de Sédécias, relisez Jérémie, eh bien, quand Sédécias s'est révolté, ça a été la ruine complète de Jérusalem, ça a été la fin, et à Sédécias, on lui a crevé les yeux, et après lui avoir égorgé tous ses enfants sous ses yeux, on lui a crevé les yeux. Et il avait transgressé le nom du Seigneur et la ville fut détruite et ce fut la captivité définitive. Mais donc, ce Jéhoiakim, c'était le neveu de Sédécias qui régnait et qui lui avait capitulé pour avoir la vie sauve, mais qui fut emmené prisonnier à Babylone. Alors, cela se passait en 599 avant Jésus-Christ. Et tandis que Jéhoiakim était conduit à Babylone, où il fut captif de longues années, là vous pouvez lire dans 2 Rois 25, verset 27, une partie des captifs fut emmenée sur les bords du fleuve Kébar, en Mésopotamie. C'est en Mésopotamie que se trouve ce fleuve Kébar, qui est plus exactement un grand canal qui relie le Tigre à l'Euphrate. Ces grands fleuves dont il est parlé déjà dans quel chapitre de la Bible? Dans la Genèse. Parmi les 4 rivières qui sortaient d'Éden, il y avait l'Euphrate et le Tigre, ce qui permet plus ou moins de situer à peu près où se trouvait le jardin de nos premiers parents, Adam et Ève. Alors, nous continuons maintenant. Nous avons trouvé donc où se trouve Ézéchiel. C'est là, au bord de ce fleuve Kébar, auprès des captifs, que Dieu va saisir Ézéchiel et en faire l'instrument de son cœur pour être son témoin parmi les captifs, parce qu'Ézéchiel est un de ces jeunes qui a été emmené en captivité avec Jéhoiakim, mais lui, on l'a mis en Mésopotamie. Et il se trouve parmi ses captifs, et Dieu va se saisir de lui et en faire son témoin au milieu des captifs, tandis qu'à Jérusalem, Jérémie continue d'être son témoin jusqu'à la fin du royaume de Juda, qui est arrivé 6 ans plus tard. Alors, quant à la personne d'Ézéchiel, je vous ai dit que son nom voulait dire « Dieu fortifie » ou « fortifiera ». Il était le fils de Buzi, donc un sacrificateur. Nous ne connaissons rien de la vie antérieure d'Ézéchiel. Est-ce qu'il avait exercé au début un peu la sacrificature, il fallait qu'on ait 30 ans pour commencer, ce n'est donc pas sûr. Mais enfin, ce n'a pas d'intérêt pour nous, puisque la Bible ne nous le dit pas. Si ça devait avoir un intérêt, nous le saurions. Nous ne connaissons rien de la vie antérieure d'Ézéchiel, comme aussi nous avons connu peu de choses d'Ésaïe. Mais en revanche, si j'avais eu le temps, j'aurais pu vous faire un tableau très complet de la vie et du caractère de Jérémie, parce que Jérémie nous a laissé beaucoup de détails sur ses sentiments personnels, sur les circonstances de son ministère. Nous n'avons pas cela avec Ézéchiel. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est appelé au ministère prophétique 5 ans après sa déportation en Chaldée. Chapitre 1, versets 1 et 2 et 3. 5 ans après sa déportation en Chaldée, le Seigneur se saisit de lui vers l'an 595, 6 ans avant la destruction de Jérusalem que prédisait Jérémie. Et alors, après la destruction, il a continué son ministère parmi les déportés, de sorte qu'on peut attribuer au ministère d'Ézéchiel une durée d'environ 22 années. Mais nous ne savons rien de sa mort. Évidemment, la tradition juive nous parle aussi de sa mort, mais on ne peut jamais être sûr des traditions extra-bibliques. Il y a toujours un peu un côté légendaire, mais il semblerait aussi que lui serait mort d'une mort violente. Enfin, il a glorifié le Seigneur jusque dans sa mort. Mais il ne semble pas avoir vu lui-même le retour de la captivité sous Cyrus qu'il avait prêché puisqu'il connaissait les écrits de Jérémie. C'était l'accomplissement de la promesse de Jérémie. Et vous verrez que quand vous lisez ce livre d'Ézéchiel, que jusqu'au moment de la chute de Jérusalem, Ézéchiel a un certain message, un message de censure, un message d'exhortation, un message où il reprend, où il exhorte, où il appelle à la conversion, où il appelle aussi à la patience, les déportés. Mais une fois qu'il n'y a plus d'espoir de retourner, semble-t-il, à Jérusalem, que maintenant c'est fini, que ce que avait dit Jérémie au point de vue des malheurs de Juda s'est accompli, alors, tout à coup, vous voyez un Ézéchiel qui arrive avec toutes les promesses de Dieu. Son message est tout différent parce que maintenant que les gens sont vraiment dans la détresse, qu'ils n'ont plus rien à espérer, l'espérance leur est annoncée. Et il faut en arriver là. Il faut arriver à ne plus avoir d'espérance pour que l'espérance, la vraie espérance, nous soit donnée. Alors, Ézéchiel est le prophète de l'espérance qui leur parle alors de celui qui sera un vrai berger. Si tout cela est arrivé à Jérusalem, c'est parce qu'il y a eu des faux prophètes, des mauvais bergers, qui ne se sont pas occupés comme il le fallait des brebis. Eh bien, moi, je paîtrai mes brebis. Et puis, c'est tous ces chapitres merveilleux qui vous parlent de la restauration de ce peuple, mais une restauration qui doit se faire par une nouvelle naissance. Car Ézéchiel est le prophète de la nouvelle naissance. Lisez le chapitre 36 d'Ézéchiel. C'est à ce chapitre que Jésus lui-même se référait quand il disait à Nicodème, au chapitre 3 de Jean, « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ce que veut dire ces choses. Naître d'eau et d'esprit, c'est comme s'il lui disait, mais tu n'as jamais lu Ézéchiel. Va trouver dans ton écriture ce que je te dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer, il ne peut pas avoir le royaume de Dieu. » Eh bien, Ézéchiel, c'est le prophète de la nouvelle naissance. Donc, j'espère que vous allez lire tous ces chapitres Et vous apprendrez en lisant qu'il était marié. Il était marié, chapitre 24, verset 18, et même, il a passé par une terrible épreuve que j'ai connue moi aussi, et dans des circonstances presque analogues, quand tout à coup le Seigneur nous avertit et que nous devons continuer le combat sans larmes extérieures, seulement dans la douleur secrète. Je vais t'enlever par une mort soudaine, celle qui fait le plaisir de tes yeux, etc. Ézéchiel était marié et il a connu un deuil brutal. Sa femme mourut d'une mort subite. Jérémie, par contre, n'était pas marié et il n'avait pas d'enfant. Et c'était Dieu lui-même qui avait dit de ne pas se marier et qui lui avait dit de ne pas avoir d'enfant. Vous vous rendez compte de quoi il s'occupe? Oui. Il s'occupe de votre mariage et il s'occupe aussi de votre célibat. Vous ne trouvez pas que c'est formidable? Voilà notre Jérémie qui n'était pas marié. Pour quelle raison? Parce que Dieu lui avait dit non, c'est pas pour toi. Dans des temps mauvais, si vous rejoignez Saint Paul là, chapitre 16, je vous le dis juste seulement parce que je l'avais dans la tête, dans le cœur aussi hier soir, mais je ne vous l'ai pas dit. Alors, je complète, puisque c'est simplement le Seigneur qui structure nos messages. Jérémie 16, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme. Tu n'auras pas dans ce lieu ni fils, ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays, ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture, ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Alors, est-ce que c'est encourageant? Est-ce qu'on se marie dans ces conditions-là? N'est-ce pas? Tout devient clair. C'est un temps où il vaut mieux ne pas se marier. Vous aurez des tribulations quant à la chair, dit Saint Paul, si vous vous mariez. Dans un temps de persécution, vous risquez d'être séparés l'un de l'autre. Vous risquez de créer un tas de problèmes. Mais il n'a pas dit à Jérémie, écoute, tu n'auras pas d'enfant, alors fais avorter la femme chaque fois, et puis, ou bien donne-lui la pilule. C'est pas ça que le Seigneur fait. Alors, reprenez tout cela, si vous voulez aussi que nous ayons une sainte communion spirituelle. Reprenons les uns et les autres tous ces principes. Laissons-nous sonder par le Seigneur. Et nous nous demandons, mais est-ce que nous ne vivons pas souvent en transgresseur? Vous voyez ce cher Josias qui, au temps de Jérémie, avait tellement à cœur une réforme d'Israël, de Juda, disons. Il voulait tout réformer, et il a fait beaucoup, mais ça a été une réforme extérieure, ça n'a pas été en profondeur. Et c'est pourquoi Jérémie, malgré qu'il était aux côtés de ce réformateur Josias, devait quand même leur dire, mais revenez, revenez, revenez au Seigneur. Une de nos amies m'a dit ce matin, mais pourquoi est-ce qu'il est dit des fois qu'il fit ce qui est droit à ses yeux, mais pas d'un cœur parfait? Eh bien, il y a une certaine manière, on peut marcher dans la légalité, on peut marcher d'une façon extérieurement, il n'y a rien à redire, c'est correct, mais le cœur n'y est pas. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que votre cœur soit en harmonie avec vos pieds. Comprenez ça? Communion de votre cœur avec vos pieds. Il ne faut pas que vous marchiez, oh, moi je marche droit, hein. J'ai avalé trois bâtons, là, trois balais, quatre chausses-pieds, puis je marche comme ça. C'est du christianisme, ça? Non, soyez souples. Marchez, mais marchez dans un chemin, quel chemin du Seigneur, les traces du Christ, parce que vous l'aimez. Il faut que votre cœur soit dans le chemin où marchent vos pieds. Il ne faut pas que votre cœur soit tout ailleurs. Il faut que dans vos actions, dans votre marche, on voit que c'est le Seigneur qui vous dirige. Alors, Jérémie donc n'était pas marié, Ésaïe lui était marié, il avait deux fils, et ce que l'on apprend d'Ézéchiel, c'est qu'il jouissait de l'estime de ses compatriotes, qui le consultaient volontiers. On voit cela quand il a eu sa vision, ils étaient ensemble, et on voit cela au chapitre 8, au chapitre 33. Et son activité, c'est vraiment une activité en ministère évangélique qu'il avait au milieu de ces gens au bord du fleuve Kébar. Et son ministère, c'était donc de combattre les illusions des captifs au sujet d'un retour à Jérusalem. Jérémie, au chapitre 29 de son livre, avait écrit une lettre à ses captifs, et Ézéchiel avait pu leur lire cette lettre où Jérémie leur disait « Prenez patience, mais priez pour la paix de votre ville, de Babylone, car dans sa paix sera votre paix. N'essayez pas de vous révolter, la captivité sera longue encore, et bâtissez des maisons, ayez des enfants, n'ayez pas peur d'avoir des enfants, là vous serez dans la paix. Hein. Mais établissez-vous là, parce que ne pensez pas que vous allez tout de suite déménager, vous allez tout de suite retourner. Non, disait Jérémie, parce que il y a 70 ans qui m'ont été révélés, pendant ces 70 ans, ça sera la captivité. Et seulement un certain nombre, là il faudrait reprendre la parabole des figues, un certain nombre de ceux qui sont allés en captivité remonteront en Juda pour reconstruire un nouveau temple, et qui ne sera pas du tout le temple d'Ézéchiel qu'on trouve à la fin de ce livre. Ça n'a pas été la reconstruction, la construction du second temple sous Josué et Zorobabel est une imitation en plus petit, évidemment, du temple de Salomon, mais ce n'est pas du tout le temple d'Ézéchiel qu'ils ont essayé de reconstruire. Le temple dont les mesures sont données dans Ézéchiel, c'est pour le futur. C'est quand le Seigneur règnera. Et si les Juifs aujourd'hui pensent qu'ils peuvent reconstruire un temple selon la prophétie d'Ézéchiel, ce temple-là sera une abomination. Elle sera de nouveau détruite. Alors, il n'est pas question, comme certains évangéliques le pensent, qu'on a déjà toutes les pierres du troisième temple et que ce serait le temple d'Ézéchiel. Alors, pour ça, il faudrait une bombe sur la mosquée d'Omar et toutes sortes de choses. Le temple d'Ézéchiel, c'est un temple qui sera pour le royaume du Seigneur quand lui régnera. Voilà le troisième temple, ce qui coupe court à toute espèce de folie, parce qu'il y a des fous évangéliques qui ne sont pas fous pour Christ, mais pour leur terrible doctrine. Et c'est ainsi qu'un de ces fous évangéliques venant des États-Unis et de Californie, pour ne pas préciser, a cru qu'il allait précipiter la venue du Messie en foutant le feu, excusez l'expression, à la mosquée de l'Aqsa. Et vous avez vu ce que ça a fait. Eh bien, on a encore accusé les Juifs d'avoir fait ça. Et c'était un Jesus people. Alors, vous voyez, on met le nom de Jésus à toutes les sauces. Et on fait soi-disant au nom de Jésus pour avancer son règne. Parce que il faut qu'il revienne le plus vite possible, alors il faut déblayer le terrain. Vous croyez que le Seigneur a besoin de votre aide? Il a besoin de votre soumission. C'est vrai ou c'est faux? Il a besoin de vos cœurs. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui tarde à nous parler du chariot? Il a peur. Il a peur. Il y a encore un petit moment. C'est pas si long. C'est pas si long. Alors, vous l'avez bien en tête, ce chariot? Vous l'avez bien devant les yeux, le chariot? On va simplement le relire, puis je vais essayer de vous en donner un résumé. Hein? Alors, je regardais verset 4. Et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée. Souvenez-vous, qu'est-ce que ça représente, la nuée? Une grosse nuée. La nuée, c'est toujours le symbole de la présence de Dieu quand il se rend visible. Vous voyez la nuée en Exode, au désert, chapitre 13, verset 21. C'était la nuée qui conduisait Israël pour le faire sortir du pays d'Égypte. Nuée lumineuse pour les uns, nuée ténébreuse pour les autres. Et puis, quand Salomon eut fini le temple, à la dédicace du temple, eh bien, la nuée est entrée dans le temple de Jérusalem, signe de la présence réelle du Dieu d'Israël, 1 roi 8, verset 10, à Jérusalem. Et puis, à la transfiguration, qu'est-ce que vous voyez sur la montagne? La nuée qui couvre le Seigneur, Pierre, Jacques et Jean, et la voix dans la nuée, c'est toujours la présence sensible de Dieu. Vous voyez la nuée à l'ascension, quand le Seigneur s'en va dans la maison de son Père, et nous voyons les nuées quand le Seigneur revient. À son retour, et les croyants seront enlevés sur les nuées du ciel. C'est toujours la nuée, la présence sensible du Seigneur. Eh bien, je regardais, et voici donc un vent impétueux. Ce vent impétueux, vous le retrouvez où aussi? Dans le chapitre 2 du livre des Actes, le jour de la Pentecôte, on entendit tout à coup un vent impétueux. C'était plus fort que le bruit de la télévision. Et ils n'écoutaient pas la télévision, puis ils ne la regardaient pas. Une grosse nuée et une gerbe de feu. Qu'est-ce qu'on a vu aussi à la Pentecôte? Des langues de feu. Chaque fois que le Seigneur se présente, c'est dans le feu, le buisson ardent. Souvenez-vous de tout cela, la montagne de Dieu en Horeb. Et ce feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Qu'est-ce qu'il y avait une lumière éclatante dans sa vie tout à coup, sur le chemin de Damas? Paul, au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli. Qu'est-ce qui arrive quand on voit de l'air impoli comme ça? On est ébloui, on est aveuglé, hein? Et comme de l'air impoli sortant du milieu du feu. Relisez Apocalypse chapitre 1er aussi, et aussi le chapitre 4, mais le chapitre 1er également, où vous voyez le Seigneur dont les pieds sont comme de l'air impoli. Au centre encore apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Inutile d'aller chercher bien loin et de dire, eh bien, Ézéchiel a composé ça dans son imagination et puis il est allé trouver cela dans le paganisme parce que les païens, justement, adoraient les animaux. Et au fond, Ézéchiel aurait été influencé par cela. Pas du tout. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Le chiffre 4, c'est le chiffre universel. Il y a quatre points cardinaux. Donc, si chacun avait quatre faces, il regardait vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest, vers les quatre points cardinaux, sans avoir besoin de se retourner. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle d'un veau. Regardez le pied d'un veau, il est tout droit comme ça. Hein. On ne sait pas ce qui est devant, ce qui est le devant, ce qui est le derrière. Hein. Regardez bien le pied d'un veau. Et ils étincelaient comme de l'air impoli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et à leurs quatre côtés. Avec la main, qu'est-ce qu'on fait? On agit aussi. Donc, ils sont capables d'agir d'une façon intelligente. et tous les quatre avaient leur face et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Bien, représentez-vous ces êtres qui ont quatre faces, donc une face d'homme, une face de lion, une face de taureau ou de bœuf, et puis une face d'aigle. Et si vous lisez plus loin dans les autres chapitres, ils sont appelés des chérubins, de sorte que l'on voit que ces chérubins sont des êtres célestes, donc qui ont quatre ailes. On pense qu'ils forment une partie de la hiérarchie céleste. Mais qu'est-ce qu'on a vu aussi dans Ésaïe 6, il ne faut pas les confondre, ce sont des séraphins, et nous ne devons pas confondre les chérubins avec les séraphins. Les séraphins, dans le chapitre 6 d'Ésaïe, ils ont six ailes, et ils sont les agents de l'adoration céleste, au sommet de la hiérarchie des anges, parce qu'il y a une hiérarchie dans les anges. Les chérubins, eux, ont quatre ailes, et eux, il faudrait prendre à travers toute la Bible, vous trouvez les chérubins à quelle place la première fois? Dans la Genèse, c'est eux qui ont l'épée tournoyante et qui gardent l'entrée de l'arbre de la vie. Ils sont les agents de Dieu et qui veillent sur toutes les voies du Seigneur. Et alors, ces faces d'animaux, qu'est-ce que cela nous représente? Le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Et il nous parle de la force, et de la force destructive. Il y a un jugement de Dieu qui doit s'accomplir. Et le lion a souvent été l'instrument de Dieu, par exemple, pour frapper le prophète infidèle, et dans d'autres domaines aussi. Le taureau, c'est le roi des animaux domestiques, et il représente l'endurance, la stabilité et aussi la puissance de la fécondation. L'aigle, c'est le roi des oiseaux, c'est l'intelligence qui contemple. C'est celui qui vole le plus haut et qui voit le plus loin. Et ensuite, l'homme, c'est le roi de toute la terre. Vous voyez, le lion, roi des animaux, le taureau, roi des animaux domestiques, l'aigle, roi des oiseaux, et l'homme, roi de toute la création, faite à l'image de Dieu, l'intelligence qui agit. Et ensuite, lisons plus loin. Verset 11. Leur face et leurs ailes étaient séparées par le haut, deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, soulignez ce verset. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Oh, c'est beau ça. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Ils allaient où l'esprit les conduisait à aller, où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. On va voir pourquoi. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Ces charbons de feu, on les a vus aussi dans le chapitre 6 d'Ésaïe, c'est un charbon de feu qui a purifié les lèvres d'Ésaïe. Et ce feu circulait entre les animaux, donc le feu consume tout ce qui ne serait pas à la gloire du Seigneur. Et il jetait une lumière éclatante, il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Oh, quand les jugements de Dieu sont sur la terre, ça va vite. Comme la foudre. Je regardais ces animaux. Et voici, tout à coup, il voit une roue, parce que, au fond, cette vision se développe. Il a vu d'abord une nuée. Il a vu le vent qui se levait, puis après la nuée. Hein. Puis, chaque fois quelque chose se précise, ça devient plus net, hein, comme un avion qui arrive, vous voyez d'abord un point noir, et puis après, vous commencez de distinguer les formes et de savoir ce que c'est. Et je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux. Alors, ça nous fait un chariot, finalement. Devant leurs quatre faces, et leur aspect, leur structure, ces roues, semblaient être en chrysolite, une pierre précieuse. Et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Vous avez déjà vu ça? Eh bien, voyez une roue comme ça, hein, là. Et puis, une roue dans cette roue, elle est comme ça. Alors, si vous avez une roue comme ça et qui est imbriquée dans une roue comme ça, ça veut dire que votre chariot, il n'a pas besoin de se tourner. Hein. Il peut aller dans cette direction, il peut aller dans cette direction, il peut aller en arrière, à gauche, à droite. Il est prêt à fonctionner dans n'importe quelle position. Tandis que sans ça, vous devez toujours faire un demi-tour. La locomotive, puis vous la tournez. Enfin, les vieilles. Hein. Mais là, le Seigneur a de l'avance. Hein. C'est fantastique, la roue comme ça et la roue comme ça, ça fait une roue, mais enfin ça fait deux roues, mais ça va dans toutes les directions. De sorte que c'est un chariot extraordinaire, qui peut aller à toute vitesse vers le nord, à toute vitesse sans se retourner et en droit vers le sud, à toute vitesse vers l'est ou l'ouest, peu importe. Voilà ce chariot. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'extraordinaire? En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés. Vous voyez, elles peuvent aller, j'ai rien inventé. Hein, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin de tourner, puisque ça roule de ce côté, puis ça roule de celui-là. C'est des belles billes. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Plus la roue est haute, plus ça va vite. Hein. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux. Qu'est-ce que c'est ça? Des roues qui sont pleines d'yeux. On est compte tout autour. Ah, ce que c'est beau, hein. Quand on voit dans ces quatre animaux, dans ces chérubins, les agents de la puissance de Dieu, les agents de Dieu dans la nature, l'action toute puissante de Dieu dans la nature, mais vous voyez que l'action de Dieu dans la nature n'est pas une action aveugle. C'est une action qui est contrôlée. Il n'y a pas de hasard aveugle dans ce qui se passe dans la création, dans les phénomènes, dans les événements que vous voyez dans la nature. C'est pas la nature aveugle qui frappe ici ou qui frappe là. C'est plein Dieu dans les roues. Et le Seigneur sait où il frappe, même si nous ne lui comprenons rien. Même si nous avons toutes sortes d'explications scientifiques, vous devriez relire le psaume 29e que j'aime beaucoup, parce qu'on voit que c'est la voix de l'Éternel qui est derrière tout cela. Et alors verset 19, « Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. » Eh bien, moi, si j'étais un savant, je me dirais, je m'en vais faire une chose de ce genre, un engin volant, là, un objet non identifié. Un ovni. Ils avaient ils allaient où l'esprit les poussait à aller, les roues s'élevaient avec eux, parce que qu'est-ce qu'il y avait? L'esprit des animaux était dans les roues. Donc vous n'êtes pas écrasé comme ça par le destin, c'est pas vrai. L'esprit des animaux était dans les roues. Si la roue tourne de ce côté, l'esprit est là. C'est l'esprit qui conduit toutes choses, même dans l'ordre naturel. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, les roues s'élevaient avec eux et l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Ça vous dit quelque chose? Vous savez vous arrêter? Et moi, est-ce que je sais? Ce sera le moment. Quand ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus, alors c'est ça qui est fantastique, au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête, dans, on traduit aussi comme un firmament. Alors, vous voyez, les animaux étaient sous le ciel de cristal. Ils portaient un ciel de cristal, ils portaient un firmament. Et alors, le paganisme a divinisé tout ce qui était au-dessous du ciel de cristal. Et il n'est jamais arrivé plus loin. L'origine du paganisme, c'est qu'il a divinisé les forces de la nature. On a adoré le taureau, on a adoré l'aigle, l'aigle romaine, vous voyez déjà tout cela, à travers les royaumes. Tous les royaumes ont été désignés par des bêtes. On a adoré le lion, vous trouvez le lion chez tous les païens aussi. Eh bien, oui, le paganisme a divinisé les forces de la nature. Ils sont arrêtés aux animaux, ils ont divinisé l'homme, par exemple, aussi. Mais au-dessus même de l'homme, de la face d'homme, de la face du lion, de la face de l'aigle et de la face du bœuf, au-dessus, il y a ce ciel de cristal. Alors, les païens ne voient rien au-dessus. Or, nous voyons ce qui est au-dessus, et c'est ça qui compte. C'est pas les forces de la nature que vous devez diviniser. Les forces de la nature sont contrôlées par celui qui est au-dessus du ciel de cristal. C'est une vision absolument merveilleuse. Moi, ça m'amènerait aux larmes de revivre cette vision quand vous y songez un peu, parce que vous retournez dans l'Exode quand Moïse et les anciens d'Israël montent sur la montagne, ils ont vu sous les pieds du Seigneur qui veut bien se révéler à eux comme un saphir. C'était bleu, c'était quelque chose de merveilleux et le Seigneur était au-dessus. Et bien ici aussi, et c'est la présence du Seigneur. Au-dessus, alors verset 26, du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et alors, s'il y a un trône, qu'est-ce qu'il doit y avoir sur le trône? Et sur cette forme de trône, vous voyez comme c'est dit, quand vous avez une vision de la gloire, ça dépasse tellement notre imagination que c'est difficile à dépeindre. Alors, c'est une forme de trône, et puis sur ce trône, quelqu'un au-dedans duquel était cet homme. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut. Qui est-ce que ça pourrait être? C'est le Seigneur avant son incarnation. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Alors, Apocalypse chapitre 1er, dans la journée dominicale, je vis le Seigneur et vous retrouverez bien de ces éléments. Comme une lumière éclatante dans laquelle il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée. Depuis quand voit-on l'arc dans la nuée? Après le déluge. C'est le signe de l'alliance. Depuis le déluge, le Seigneur a donné ce signe, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Cet arc, vous le retrouvez aussi dans l'Apocalypse au chapitre 4e. Alors que les animaux là sont au repos, ils sont couchés, les quatre animaux, tandis que là, ils portent le trône de Dieu. C'est un autre temps. Les chérubins ont une autre action dans le repos céleste. Mais là, on voit l'action de Dieu dans le monde. Et il est dit, et c'est là le secret, c'était, verset 28, une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. À cette vue, je tombais sur ma face. Au-dessus du firmament, je vis un trône. Et quelqu'un sur le trône. Et dire que celui qui était sur le trône a accepté de descendre de ce trône et a été saisi par des mains d'hommes qui l'ont cloué sur la croix. Dieu notre Père, donne-nous la révélation de ta gloire. C'est tellement beau de penser que toi dont la présence était assurée à Jérusalem, il fallait aller à Jérusalem pour te trouver. Puis maintenant que le temple va se détruire, tu viens vers des captifs. Tu n'es plus dans un temple de pierre. Tu es sur ce chariot porté par les chérubins, et c'est toi qui viens au milieu des captifs. Et tu leur diras, bien que je vous ai éloigné, bien que je vous ai dispersé parmi les pays, toutefois je vous serai comme un petit sanctuaire là où vous êtes venus. On peut te voir au bord du fleuve de Kéba, dans toute ta beauté et dans toute ta gloire. Tu viens visiter des captifs et fais-nous comprendre mieux encore que c'est dans nos cœurs maintenant que tu veux vivre, que tu veux avoir ton trône et que c'est toi qui vas nous conduire droit devant nous. Si nous devons aller à droite, tu nous feras aller à droite. Si nous devons aller à gauche, tu nous feras aller à gauche. Nous aurons ton esprit pour nous diriger dans toutes nos voies. Et nous te bénissons parce que tu nous révèles que tu n'habites pas dans les temples de main d'homme, mais que tu veux être totalement dans nos cœurs. Que tu y sois, Seigneur, aujourd'hui comme jamais encore, et que ce 13 décembre, nous connaissions un avant-goût de la gloire éternelle.